Bonjour à tous, vous écoutez Radio Orient, il est 17h, voici votre rendez-vous d'information avec vous, Loïc Barrière. Au sommaire de ce point d'actualité, 5 ans après l'explosion dans le port de Beyrouth, le président libanais Joseph Aoun promet que la justice sera rendue dans notre dossier du jour. Entretien avec une victime de l'explosion, Roni Mekataf, il a perdu un œil dans l'explosion. Benjamin Netanyahou va convoquer son cabinet cette semaine pour donner des instructions à l'armée sur la poursuite de la guerre à Gaza. 90 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne ces dernières 24 heures. Dans notre point d'actualité, nous commençons par le Liban. Il y a 5 ans, jour pour jour, avait lieu la double explosion du port de Beyrouth. La plus forte explosion dans le monde depuis les bombes d'Hiroshima et Nagasaki. Des rassemblements ont commencé dans la capitale libanaise avant une marche qui doit rejoindre le port. Le président Joseph Aoun a déclaré que l'État libanais et toutes ses institutions s'engagent à ce que la vérité soit faite sur la catastrophe. Quels que soient les obstacles et peu importe le rang des personnes concernées, selon lui, la justice ne connaît pas d'exception et la loi s'applique à tous sans distinction. Jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve n'a permis de déterminer l'origine de l'incendie à l'origine de l'explosion qui a fait 235 morts et 6500 blessés le 4 août 2020. En ce jour anniversaire, deux ONG, Amnesty International et Human Rights Watch, estiment que les autorités libanaises n'ont pas mené à bien une enquête efficace, indépendante et impartiale sur l'explosion. L'ambassade de France au Liban affirme, je cite, que mettre fin à l'impunité est essentiel au redressement du Liban, car sans justice, il n'y a pas d'état de droit possible. Pour sa part, l'ambassade du Royaume-Uni au Liban appelle à la vérité et à la justice. Hier soir à Beyrouth, un message du pape Léon XIV a été lu en hommage aux victimes et je vous invite à écouter notre dossier du jour dans quelques instants. Au moins 76 morts dans le naufrage d'une embarcation de migrants au large du Yémen. Des dizaines d'autres sont portées disparues. 32 personnes ont pu être secourues. Au moins 90 Palestiniens tués ces dernières 24 heures par l'armée israélienne. Un bilan donné par le ministère de la Santé de Gaza. Benjamin Netanyahou, lui, va convoquer cette semaine son cabinet pour donner des instructions à l'armée sur la poursuite de la guerre dans la bande de Gaza. Le premier ministre israélien a rappelé les objectifs de la guerre, vaincre l'ennemi, libérer les otages et garantir que Gaza ne constitue plus une menace pour Israël. Le Conseil de sécurité de l'ONU va tenir une réunion d'urgence demain sur la question des otages israéliens à Gaza, après la publication de vidéos montrant deux otages décharnés et affamés. Benjamin Netanyahou s'est dit hier choqué par ces vidéos d'horreur et a demandé l'aide de la Croix-Rouge pour leur fournir de la nourriture et un traitement médical. Le Hamas a répondu qu'il n'autorisera l'accès de la Croix-Rouge aux otages israéliens que si des couloirs humanitaires sont ouverts vers la bande de Gaza. Donald Trump annonce une visite de son émissaire Steve Witkoff en Russie mercredi ou jeudi. Il affirme par ailleurs que 2 sous-marins nucléaires américains se trouvent dans la région. Réaction du Kremlin ce lundi, nous pensons que tout le monde doit faire preuve d'une grande prudence dans ses déclarations sur le nucléaire. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Dans notre dossier du jour, le Liban, nous revenons sur la double explosion dans le port de Beyrouth le 4 août 2020. 5 ans après, les Libanais sont toujours en quête de vérité, alors que les traumas sont toujours bien présents. Dans un instant, nous écouterons le témoignage d'une victime, Roni Mekataf. Mais d'abord, Nawal El Amouchi, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé il y a 5 ans dans la capitale libanaise.
Oui Loïc, c'était le 4 août 2020, aux alentours de 18h. Une puissante explosion secoue Beyrouth. Des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium stockées sans mesure de précaution dans le hangar du port explosent. Et les conséquences sont dévastatrices, avec un lourd bilan humain. Plus de 220 morts et 6500 blessés. L'explosion détruit des quartiers entiers de la capitale et elle est qualifiée par des experts comme l'une des pires déflagrations non nucléaires de l'histoire. 5 ans après cette gigantesque explosion, le président libanais Joseph Aoun a promis ce lundi que la justice serait rendue car l'enquête n'a toujours pas abouti. Il a annoncé qu'il était engagé à dévoiler toute la vérité, peu importe les obstacles ou les positions élevées impliquées selon ses mots. Le sang de vos proches ne sera pas versé en vain, a-t-il insisté en s'adressant directement aux familles des victimes. Et le Premier ministre Nawaf Salam a déclaré ce dimanche que connaître la vérité et établir les responsabilités était une question nationale. Il a dénoncé, lui, des décennies d'impunité officielle, car l'enquête, elle est surtout paralysée depuis des années par des ingérences politiques. Un premier juge chargé en 2020 de l'enquête avait dû jeter l'éponge après avoir inculpé l'ex-premier ministre et 3 anciens ministres. À la suite, c'est le juge indépendant Tarek Bitar qui avait repris l'enquête qu'il avait dû interrompre en janvier 2023. Il s'était heurté à l'hostilité d'une grande partie de la classe politique, notamment du Hezbollah, avant d'être poursuivi pour insubordination par le procureur général, une première dans l'histoire du Liban. Et après plus de 2 ans d'impasse, le juge avait repris ses investigations et engagé des poursuites en ce début d'année contre 10 nouvelles personnes. Tarek Bitar a maintenant terminé ses interrogatoires et il attend notamment une réponse à des demandes d'informations qui ont été adressées en juillet à plusieurs pays arabes et européens selon l'agence France-Presse. Le dossier, une fois finalisé, devra être transmis au parquet pour avis avant d'éventuelles inculpations. Et nous allons écouter tout de suite Roni Mekataf qui fait partie des 6500 blessés victimes de cette explosion. Il a vécu aux premières loges l'effroyable drame. Marqué dans sa chair, ce psychothérapeute livre dans son ouvrage La blessure qui guérit, les coulisses de sa guérison après cette épreuve.
Contrairement à mon habitude, comme on était déjà au mois d'août, j'étais arrivé à Beyrouth environ une demi-heure avant l'explosion. Et pour ma malchance, je me trouvais très très près du port, dans un appartement dans le quartier de Jemaïzé, pour un rendez-vous avec une personne qui faisait un film sur mes activités. Et voilà, donc quelques minutes après être arrivé dans l'appartement où devait se tenir cette réunion, il y a eu cette première explosion. Voilà.
Quelle image vous gardez de cette journée ?
Alors, il y en a plusieurs, mais peut-être celle qui me vient en tête comme ça, c'est cette explosion très puissante. Comme il y avait eu le premier boom, il y avait eu déjà, si vous voulez, un intérêt. Je regardais par le balcon vers le port pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et il y a eu cette deuxième explosion, vraiment presque nucléaire, très très puissante, avec du rouge, du noir, de la fumée, et ce blast qui envoyait des milliers de débris dans ma direction. Oui, ça, c'est peut-être l'image la plus forte qui me reste.
Vous mettez combien de temps à réaliser véritablement ce qui est en train de se passer ?
Ça a dû prendre quelques secondes, je dois avouer, parce qu'on est un peu sidéré, sans très bien comprendre ce qui se passe. Et au moment où j'ai compris, je me suis retourné pour rentrer dans l'appartement. Et c'est à ce moment-là que j'ai été projeté, mais vraiment comme une brindille. Je me suis retrouvé en l'air sans aucune autonomie, ni possibilité de faire quoi que ce soit, et projeté contre, je ne sais pas, le mur ou la porte. Et heureusement que j'ai été projeté à l'intérieur de l'appartement, parce que si j'avais été jeté par-dessus le balcon, je ne serais pas là aujourd'hui.
Alors vous avez perdu votre œil dans ce drame. J'aimerais savoir à quoi ressemble votre vie depuis.
On s'habitue, vous savez, la blessure physique. C'est vrai qu'il y a eu quelques mois, disons, d'adaptation. Surtout que je ne savais pas très bien si j'allais pouvoir recouvrer la vue. Ce n'est que quelques mois plus tard qu'il a fallu se rendre à l'évidence que ça ne serait pas possible. Donc ça a été graduel et peut-être ça m'a permis d'accepter l'idée que je ne pourrais plus voir de cet œil.
Alors vous êtes vous-même thérapeute. Vous arrivez à mettre des mots sur ce qu'il s'est passé ce jour-là ?
Oui, j'ai la chance effectivement d'avoir, disons, des modalités de travail sur soi que j'ai pu pratiquer toutes ces années. Je dirais les mots, ils ont été surtout pour moi exprimés à travers le livre que j'ai pu écrire. Ça a été une longue expérience de 3 ans, mais c'est vrai que cette écriture a été sûrement thérapeutique pour moi.
Il y a eu un avant et un après. Vous considérez que vous êtes un autre homme depuis cette journée du 4 août. Vous avez une vision qui est différente sur la vie, sur je sais pas, sur les choses, sur votre famille peut-être aussi.
Je pense que ce qui est le plus important, c'est un amour de la vie encore plus fort, plus accru. Parce qu'on se rend compte que finalement, on est tellement fragile. Vous savez, même si je suis Libanais, j'ai eu la chance de ne pas, comment dire, être victime de d'autres situations de guerre qui ont eu lieu pendant les 50 dernières années. Je disais toujours que j'avais une chance incroyable, que je passais à travers les mailles du filet. Et cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Donc oui, peut-être un amour de la vie encore plus fort qui me fait vouloir profiter de chaque minute.
Vous n'avez pas eu de sentiment d'injustice quelque part ?
L'injustice, elle est là. Elle est là dans ce pays, le sentiment d'injustice et surtout la colère par rapport à cet immobilisme. Il n'y a pas de justice réellement par rapport aux victimes de cette explosion. Moi, j'ai eu beaucoup plus de chance que d'autres. J'ai pu me faire opérer en Europe suite à cette blessure. Il y a des gens qui ont perdu beaucoup plus que ça, ou des membres de leur famille. Je peux comprendre la colère.
Et vous avez été amené justement à rencontrer des familles de victimes ou même des rescapés, des blessés suite à cette explosion?
Oui, j'ai régulièrement des personnes qui viennent me voir dans mon activité de psychothérapeute. Alors c'est sûr que lorsqu'ils se savent ou lorsqu'ils se rendent compte que j'ai moi-même été victime, peut-être que ça nous rapproche un peu, je ne sais pas. Mais oui, c'est quelque chose qui est très présent, qui reste présent même 5 ans après.
C'était Ronnie Mekataf, auteur de « La blessure qui guérit » aux éditions Éric Bonnier. Il est l'invité de Grand Angle ce soir. Je vous invite aussi à suivre sur radioorient.com notre série en 4 épisodes de l'Orient décrypté consacrée à l'explosion de Beyrouth. Le dernier épisode avec Jean-Pierre Perrin sera diffusé mercredi à 19h. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Merci à Raymond Jouan pour la réalisation. Bonne suite des programmes sur Radio Orient. Et à présent, le journal du sport avec Arthur Claude Savoie.
Radio Orient, sport.
Pauline Ferrand-Prévot est sur le toit du monde. Hier, il y avait la dernière journée du Tour de France féminin. La Française Pauline Ferrand-Prévot a maîtrisé et remporté la dernière étape pour s'offrir le premier Tour de France de sa grande carrière. La multiple championne de VTT, malgré une avance considérable au classement général, a tout de même joué la victoire. Elle a été seule sans coéquipière pendant 100 km et à 6 km de l'arrivée. La Française a lancé son attaque. Elle, qui avait déclaré vouloir gagner le Tour de France lors de sa 3e année, l'a remporté dès sa première participation. En plus de ses 12 titres de championne du monde en VTT, son palmarès plus qu'impressionnant, PFP s'inscrit encore plus dans la légende du sport français. Deuxième, c'est Demi Vollering, la néerlandaise qui a été trop courte en montagne face à une Pauline Ferrand-Prévot en feu. 3 minutes 42 secondes d'écart entre la vainqueur du TDF 2023 et du Tour de France 2025. Et troisième, c'est la polonaise Katarzyna Niewiadoma. La championne de l'édition 2024 est arrivée 4 minutes 09 derrière la française. En soi, on peut dire que la logique a été respectée, les favorites ont été au rendez-vous. Mais quand même, Pauline Ferrand-Prévot a été au-dessus au meilleur des moments. On l'appelle le marchand d'or, et ce n'est pas pour rien. Natation, ce week-end, Léon Marchand a été sacré champion du monde sur le 400 mètres canne nage. Le Français a remporté une deuxième médaille d'or lors de ses championnats du monde de Singapour. En plus de l'argent sur les relais 4 fois 100 mètres en équipe, le Toulousain était logiquement élu meilleur nageur de la compétition. Mais un nageur qui n'aurait pas démérité ce titre de MVP, c'est le Calédonien Maxime Grousset. Le Français s'est imposé sur les courses rennes du 50 mètres papillon et 100 mètres papillon. Il a aussi décroché une médaille de bronze lors du relais mixte et lors du relais 4 fois 100 mètres en équipe avec Léon Marchand, des mondiaux qui le font entrer dans une autre dimension. Et au total, c'est un bilan de 8 médailles pour l'équipe de France lors de ces mondiaux. En plus des médailles précédemment citées, les deux handos de Johan Hendoy-Brouillard, la France termine 3e nation derrière l'Australie et les États-Unis. Football, ce soir c'est une belle rencontre entre Liverpool et l'Athletic Bilbao qui vous attend. Ce sera à 18h et à 21h car c'est une double confrontation. De quoi tout de même voir les stars comme Florian Wirtz tout fraîchement arrivé au club ou encore le jeune français Hugo Ekitike. Mais ce sera aussi l'occasion pour les deux équipes de faire tourner leur effectif. Ce soir, coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations pour l'Algérie face à l'Ouganda à Kampala à 20h. Finaliste en 2023, l'équipe nationale Abyss de Madji Bouguera mise sur l'expérience et le mental de ses joueurs pour lancer idéalement la compétition. Basket, l'équipe de France affronte le Monténégro ce soir à 21h à La Roche-sur-Yon en match de préparation à l'Euro. Freddy Fautou a retenu 14 joueurs pour cette rencontre, laissant au repos Eli Okobo, Isaiah Cordinier, Mamadou Jaïté et Johan Makoundou. Alexandre Sarr, Moussa Diabaté, Ousmane Dieng devraient connaître leur première sélection. La sélection algérienne masculine de basketball, elle, a remporté la 26e édition du championnat arabe des nations en s'imposant devant le pays organisateur du Bahreïn sur le score de 70 à 69. Deuxième, c'est la Tunisie qui a seulement perdu contre les Fennecs. Et troisième, ce sont les Émirats Arabes Unis. Tennis, les 8e de finale de l'ATP Master 1000 de Toronto ont tenu toutes leurs promesses. L'Australien Alex de Minaur, numéro 9 tête de série, s'est imposé en 3-7 face à l'Américain Frances Tiafoe, numéro 7 tête de série, 6-2, 4-6, 6-4. Le Russe Andrei Rublev, numéro 6 tête de série, a bataillé pour sortir l'Espagnol Davidovich Fokina en 3 manches disputées. Le seul Américain qui reste encore avec Taylor Fritz, c'est Bobby Shelton, numéro 4, qui a dû s'empolailler pour venir à bout de l'Italien Kobili, 6-7, 6-4, 7-6. Et enfin, je vous en ai parlé, Taylor Fritz, numéro 2, a été solide et a écarté Jiří Leščenka, numéro 19, en 3-7 également. Les quarts de finale s'annoncent explosifs avec une belle tensité de tête de série encore en lice. Une anecdote de longévité du lancer de disque en athlétisme. Depuis 2000, Mélina Robert-Michon n'a laissé échapper que 2 titres de championne de France et uniquement pour cause de maternité. À 46 ans, hier, elle continue de dominer encore sa discipline avec une constance impressionnante, empilant les titres comme d'autres, les souvenirs de vacances. Son 24e sacre, acquis avec un lancer de 61,64 m, est bien plus qu'un chiffre. C'est un vrai symbole d'une longévité rare dans le sport de haut niveau. Une légende vivante du disque, aussi solide que pas. Merci à tous d'avoir suivi votre émission sport. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. En tout cas, c'était Arthur-Claude Savoie. Je vous souhaite une bonne suite des programmes sur Radio Orient.
C'était Radio Orient Sport.